Bonsoir à toutes et à tous. L'horreur ce matin à Nice. Un homme a attaqué au couteau plusieurs personnes dans la basilique Notre-Dame. Trois morts, dont une femme égorgée. Et selon les dires de Christian Estrosi, l'assaillant répétait en boucle « Allahu Akbar » après avoir été neutralisé par les forces de l'ordre. Le parti antiterroriste a été saisi. Emmanuel Macron s'est rendu sur les lieux. Les catholiques sont menacés et la France attaquée, a déploré le chef de l'État. Car au même moment, le consulat de France à Jeddah, en Arabie Saoudite, était lui aussi l'objet d'une attaque. Pourquoi la France est-elle devenue une cible ? La laïcité à la française est-elle mal comprise et perçue comme une provocation contre les musulmans, comme le martèle le président turc Erdogan ? Faut-il durcir l'arsenal antiterroriste aux dépens de nos libertés individuelles ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulée ce soir « La France attaquée, les catholiques menacés ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste à L'Express, Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs, spécialiste des questions de justice, auteur de La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français, c'est chez Fayard. Driss Aït Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité, président de l'Institut Léonard de Vinci. Et enfin, Hélène Romano, psychothérapeute spécialisée dans les traumatismes, auteur de « Quand la vie fait mal aux enfants », c'est publié chez Odile Jacob. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Mathieu Delahousse, on commence avec vous. Est-ce qu'on en sait plus sur le profil de l'assaillant, qui il est et d'où vient-il ?
Alors, pour l'instant, ce sont des informations très parcellaires, parce que c'est ce qu'on essaie toujours de reconstituer dans les premières heures après le crime. Ça va assez vite, soit avec les pièces d'identité, soit avec les empreintes. Là, ça va relativement vite, puisque le parquet national antiterroriste doit s'exprimer ce soir sur qui il était. Mais on a déjà plusieurs choses, notamment sur le site de l'Obs ce soir, le fait que, en réalité, il était arrivé en France de manière illégale, de façon extrêmement récente, puisque ce jeune homme est né en 1999, il est de nationalité tunisienne, et il y a une marque qui fait qu'on a pu détecter son parcours, si l'on peut dire, c'est qu'il est repêché par un bateau de secours italien à la date du 20 septembre dernier. Les secours le ramènent soit à Lampedusa soit à Bari, sont des éléments qui sont en train d'être vérifiés pour le moment. Et à ce moment-là, il est enregistré, il doit faire partie des gens qui sont, alors pour l'anecdote, dans un premier temps mis en quarantaine pour des raisons sanitaires, mais ensuite expulsé. Mais en réalité, on va perdre sa trace administrative à ce moment-là et il va rentrer illégalement sur le sol français. Alors là, pour l'instant, ce sont des éléments initiaux qu'il faut considérer avec prudence, mais qui sont une trace géographique. Ensuite, évidemment, il y a deux grandes questions. C'est est-ce que c'est dans le cadre d'une action terroriste très préparée avec cette route des migrants qui, quand on s'en souvient sur le terrorisme récent, avait été utilisée par une partie des commandos du 13 novembre 2015 qui étaient montés pour s'en prendre terrasse au Bataclan. Et deuxième hypothèse...
Vous voudriez dire que la première hypothèse, c'est que ça a été piloté depuis, avec un départ organisé depuis la Tunisie, spécialement pour frapper la France.
Alors, pas forcément depuis la Tunisie, parce qu'entre la Tunisie, il peut y avoir d'autres pays. C'est une hypothèse qui sera forcément examinée. Et la deuxième, et qui ressemble plus au terrorisme individuel, brutal et désordonné, d'une certaine façon, j'imagine qu'on en parlera, c'est celle, effectivement, d'un réfugié, d'un immigré clandestin qui est... soit manipulé, soit qui passe à l'action selon des ressorts qui seront l'autre aspect de l'enquête, qui sont aujourd'hui les énigmes les plus importantes, les plus troublantes et sans doute les plus difficiles pour les services judiciaires et services d'enseignement qui travaillent là-dessus, puisqu'il y a une difficulté en réalité à savoir quel est le moment et la motivation de la bascule. Mais en tout cas, les premiers éléments sur lui, ce sont des éléments d'itinéraire avec effectivement un profil qui ressemble à quelques-uns des passages à l'acte à l'arme blanche au cours de ces 12 derniers mois.
C'est ce que j'allais dire, Driss Aït Youssef, ça rappelle en tous les cas le profil de ce Pakistanais qui avait menti sur son âge, qui était fraîchement arrivé et qui est passé à l'acte dans la rue de l'ancien quartier de Charlie. Donc dans les deux cas, ce sont des étrangers en situation irrégulière, fraîchement arrivés sur le sol français et qui passent à l'acte.
Oui, et effectivement, et dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, il y a cet itinéraire et puis après il y a l'individu et son environnement. Et là, effectivement, force est de constater qu'on avait, il y a encore quelques années, des nationaux qui commettaient des exactions, en tout cas des attentats sur notre territoire. Et là, aujourd'hui, on a des étrangers qui sont jeunes, voire très jeunes. 18 ans pour le Pakistanais qui a tenté de commettre... Non, 25 ans pour le Pakistanais qui a tenté de commettre, qui a commis un attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Ensuite, 18 ans pour ce Tchétchène. Et là,
21 ans apparemment.
21 ans. La question, effectivement, se pose, est-ce que c'est un individu qui est projeté depuis la Tunisie ou ailleurs? Pourquoi Nice avec un couteau? Est-ce qu'il a eu de l'argent? Comment il s'est acheté son couteau? Comment il a agi? Et effectivement, ça posera la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un nouveau terrorisme, entre guillemets, où effectivement, c'est d'autres individus, d'autres modes opératoires. Par rapport à 2015, c'est vrai qu'on l'a déjà dit d'ailleurs sur ce plateau, on n'a plus de groupe structuré, organisé, formé, et puis avec des armes lourdes, des explosifs et des mitrailleuses donc de type Kalachnikov, à aujourd'hui des individus qui commettent des attentats avec des couteaux.
Voilà, on a parlé, Christophe Barbier, d'un terrorisme low cost, parce qu'il s'agit simplement d'un couteau, mais qui sème la terreur, parce que les cibles, on a l'impression, sont presque choisies. Là, il y a deux semaines, c'était une école, là, c'est une église.
On est dans les symboles d'une civilisation qu'ils détestent. On est aussi dans des modes opératoires, décapités, égorgés, ouais, qui sèment encore plus la terreur dans l'imaginaire. C'est pas l'importation d'une scène de guerre, c'est du terrorisme en effet à bas coût qui peut surgir comme ça de manière spontanée. L'idée que quelqu'un ouvre une porte, prenne un couteau et se rue sur une victime, ça rend la terreur encore plus palpable, encore plus présente, presque de plein pied. Tout peut être terreur, toute circonstance de la vie quotidienne peut amener à vivre un instant de terreur. C'est ça aussi qui est recherché, c'est cette forme-là de terrorisme, c'est-à-dire saisir les esprits. Et puis là, on a une différence aussi à Nice, c'est que la cible n'est pas attaquée pour ce qu'elle a fait, un cours sur la liberté d'expression, comme Samuel Paty, ou des dessins dans un journal, comme les journalistes de Charlie Hebdo, mais simplement pour ce qu'elles sont, ces victimes. Elles sont des fidèles catholiques dans un lieu de culte. Elles n'ont rien fait, elles n'ont rien dit, et donc c'est ce qu'elles sont qui est attaqué et qui est mis à mort. On est dans une sorte de, si j'ose dire, de pureté du terrorisme, de l'acte djihadiste.
Voilà, et c'est le père Hugues de Voilemont, le porte-parole des évêques de France, qui, pour illustrer ce que vous venez de dire, disent les chrétiens ne doivent pas devenir un symbole à abattre. Ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont qu'on chercherait à abattre. Hélène Romano, dimanche, il va y avoir la messe de Toussaint. Lundi, il y a la reprise de l'école. Le tout en confinement. On se dit, mais quelle chape de plomb est en train de s'abattre sur le moral des Français ?
Oui, il faut en avoir conscience, surtout sur le moral des enfants. Alors, les adultes, bien évidemment, mais les enfants qui ont encore plus de mal à comprendre ce qui se passe, parce qu'ils ont besoin d'avoir du sens sur les images, du sens sur les mots. Alors, il y a des mots très forts, hein, décapitation, qu'on voit en boucle sur les chaînes de télévision, c'est quand même extrêmement violent pour un enfant. De savoir, en effet, qu'il n'y a plus aucun lieu sécurisé, parce que les écoles, les églises ou les lieux de culte étaient des endroits jusqu'à présent où on se sentait en sécurité, mais les commissariats, pareil, peuvent être attaqués. Enfin, il n'y a plus aucun lieu sécurisé, donc pour les enfants.
Qui vont dans des écoles catholiques, ils peuvent se sentir doublement menacés lundi, alors ?
Alors, qui vont dans des écoles catholiques, possiblement.
Parce qu'il y a les deux symboles, là.
Mohamed Merah, c'était des écoles juives aussi, ouais. Donc des écoles de différentes confessions. Je pense que là, les différentes confessions peuvent être concernées. Il n'y a plus de lieux sacralisés, il n'y a plus d'endroits où on est en sécurité totale. Alors, il y a eu beaucoup de défiance quand il y a eu les exercices anti-attentats qui ont été mis en place. Moi, j'avais participé à l'élaboration après 80, les premiers attentats de Charlie.
Mais on voit à quel terrible point d'apprendre, oui, à des enfants de se cacher d'aller se cacher comme en temps de guerre,
oui,
sous une petite table.
On voit bien à quel point c'était important par rapport à l'évolution actuelle d'apprendre aux enfants qu'ils ont les ressources pour se défendre, qu'ils ne seront jamais seuls et qu'il y a des adultes, même si le contexte est difficile, il faut qu'on tienne notre place d'adulte, même si c'est très dur, très difficile. Il y a un devenir qui est possible, sinon on va tous se suicider. Donc, il y a un moment donné, les enfants, ils ont besoin des adultes pour essayer d'avoir une petite ouverture positive. La période est extrêmement lourde, très difficile, très compliquée, très éprouvante, mais on va s'en sortir. C'est important qu'on ait aussi ce message-là, même si c'est complexe, et les profils des terroristes, pour faire des recherches sur le sujet, c'est extrêmement complexe. Il n'y a pas un terroriste, il y a plusieurs profils. Les enfants, ils ont besoin de savoir qu'il y a des adultes près d'eux pour les protéger, même si la situation est difficile.
Alors, à quelques jours de la fête de la Toussaint, la France est donc placée en vigilance urgence attentat. La ville de Nice, déjà frappée par le terrible attentat du 14 juillet 2016, a de nouveau été visée ce matin autour de 9h. Cette fois, c'est dans la basilique Notre-Dame qu'un individu a tué 3 personnes. Le récit avec Julien Launay et Christophe Roquet.
Nice, ville meurtrie en 2016, et à nouveau endeuillé par une attaque terroriste. Quelques heures après le drame de ce matin à la basilique Notre-Dame, Emmanuel Macron est sur place. L'occasion notamment d'adresser un message à toute une communauté.
Je veux ici dire d'abord et avant tout le soutien de la nation tout entière aux catholiques, de France et d'ailleurs. Après l'assassinat du père Hamel à l'été 2016, c'est une nouvelle fois les catholiques qui sont attaqués dans notre pays, menacés, avant les fêtes de la Toussaint. La nation tout entière se tient à leur côté et se tiendra pour que leur religion puisse continuer de s'exercer librement dans notre pays. Car notre pays, c'est cela, ce sont nos valeurs. Que chacun puisse croire ou ne pas croire, mais que chaque religion puisse s'exercer.
Un peu plus tôt, scène d'horreur dans l'enceinte même de cet édifice religieux situé en plein cœur de Nice. Vers 9h, un individu pénètre à l'intérieur pour s'en prendre à plusieurs personnes avec un couteau. Bilan, 3 morts. Une femme et un homme sont égorgés, alors que l'autre victime a pu s'enfuir avant de succomber à ses blessures. Rapidement neutralisé et grièvement blessé par la police municipale, l'assaillant revendique alors son acte.
Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous à la Ouagbar alors qu'il était médicalisé sur place, quel était le sens de son geste, sa détermination.
Le parquet national antiterroriste ne tarde pas à se saisir de l'affaire. Âgé d'une vingtaine d'années, l'auteur des faits de nationalité tunisienne aurait déclaré avoir agi seul. Ce matin, onde de choc dans l'hémicycle où Jean Castex vient présenter les nouvelles mesures de confinement. Soudain, il est tenu informé des événements à Nice et s'empresse d'en faire part au président de l'Assemblée.
Un attentat d'une gravité extrême s'est produit à Nice. Je vous demande, dans ces circonstances tragiques, d'observer une minute de silence.
Je vais donc être tenu, compte tenu des circonstances exceptionnelles, de me rendre place Beauvau à la cellule interministérielle de crise.
Et à l'issue de cette cellule de crise, Jean Castex annonce que le plan Vigipirate est élevé à son plus haut niveau. L'attentat à la basilique de Nice intervient moins de 2 semaines après la décapitation de Samuel Paty. Dans la classe politique, il y a de l'émotion et de la colère.
On a tué des gens qui priaient et qui ne faisaient rien d'autre que ça. Si bien que il paraît aussi nécessaire que chacun garde son sang-froid.
Je souhaite que nous puissions rester rassemblés, unis, et que nous n'offrions pas aux terroristes le spectacle affligeant d'une nation qui se diviserait.
Ce sont des actes de guerre qui sont menés sur la base d'une idéologie que pour l'instant nous ne nous mettons pas en situation de combattre avec les armes que nous devrions, à savoir des législations de guerre.
Pour la première fois depuis l'occupation, la France n'est plus libre. Notre pays est en guerre, nous sommes en guerre. Pensez pour les victimes de ce nouvel attentat qui touche au cœur notre ville de Nice. La France sous la menace, et davantage encore depuis la republication des caricatures de Charlie Hebdo. Le consulat français à Jeddah en Arabie Saoudite vient d'être pris pour cible avec l'agression d'un garde à l'arme blanche. À la veille d'un nouveau conseil de défense, plusieurs mesures ont été prises pour redoubler de vigilance. Parmi elles, l'augmentation du nombre de militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle, de 3000 à 7000 hommes.
D'abord, est-ce qu'on sait si ces deux attentats sont liés ? Est-ce qu'on peut penser que ce soit coordonné ? Driss Aït Youssef, on est incapable de dire si ce qui s'est passé à Nice a été fait en bonne intelligence avec ce qui aurait pu se passer à Jeddah devant le consulat de France en Arabie Saoudite.
Non, il n'y a rien aujourd'hui qui nous permet d'effectivement d'établir un lien entre les deux actes terroristes. Après, il y a l'enquête, le dira. C'est sûr qu'il y a un climat, un environnement, on verra.
Il y a simplement, mais c'est encore effectivement pas un élément sur lequel on peut s'arrêter de façon certaine, mais ce sont des éléments de calendrier qui peuvent guider les enquêtes antiterroristes. Et aujourd'hui, c'est le Mawlid, c'est-à-dire l'anniversaire de la naissance du prophète. Le 11 septembre peut consister aussi avec des dates anniversaires. La publication des caricatures peut le faire, et tout ça donne effectivement une toile de fond. Donc, est-ce qu'il y a un lien ? Il est certain que le dernier communiqué d'ACPA date du 10 septembre. Il était lié au procès Charlie Hebdo. Il y a 3 actes terroristes qui ont été commis depuis cette date. Mais effectivement, les symboles sont des symboles On parle souvent de terrorisme liquide depuis une petite année. C'est le cas. Liquide sur les dates, liquide sur le mode d'action et liquide effectivement sur les symboles choisis. Il faut rappeler simplement, rapidement, par rapport au lieu de culte visé, que c'est la troisième fois en France qu'une église est visée. Le président de la République a rappelé en juillet 2016 l'assassinat du Père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a actuellement devant la cour d'assises spéciale à Paris le procès de Sid Ahmed Glam qui avait visé en avril 2015 l'église de Villejuif. Il y avait 300 personnes au moment où il voulait passer à l'action. Et puis, il y a un acte qui est appelé l'attentat des bonbonnes de gaz, tentative des bonbonnes de gaz de Notre-Dame, même si c'était dans le quartier de Notre-Dame davantage.
Pas au pied de la cathédrale.
On parlait du climat, Christophe Barbier. La Turquie condamne fermement cet attentat et fait part de sa solidarité avec la France. Est-ce que Erdogan se dit peut-être qu'il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé suite à ses propos très violents contre la France quand il dit, quand il parle à notre égard d'une campagne de haine en France contre les musulmans et quand il dit, je cite Erdogan, il a comparé la campagne de lynchage contre les musulmans en France à celle des juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce type de propos, ce type de diatribe peut créer un climat propice à ces attaques contre la France en Arabie Saoudite et à Nice?
Il va de soi que toutes les manifestations anti-françaises, toutes les déclarations contre la France et sa tradition de la liberté d'expression émanant d'Erdogan ou de qui que ce soit d'autre crée un climat favorable au passage à l'acte. C'est-à-dire qu'un terroriste, qu'il soit isolé ou envoyé spécialement, peut se sentir conforté par un moment diplomatique, un moment géopolitique, où d'un seul coup, la France devient une nation adverse, voire ennemie de toute une partie du monde musulman. Il va de soi que quand on voit des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Bangladesh, si on a une âme de terroriste et une volonté terroriste, on va se sentir conforté. Voire ça peut être le moment décisif, le déclencheur d'un passage à l'acte. Erdogan ne me semble pas accessible au sentiment de culpabilité, il va vouloir jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire bien sûr désapprouver des actes sanglants comme celui qui ont eu lieu à Nice, tout en réexpliquant que la France, entre guillemets, n'a que ce qu'elle mérite, puisqu'elle agresse l'islam, elle agresse la communauté musulmane, et que ça ne peut que susciter des réactions de ce type chez des gens qui n'hésitent pas à faire ce passage à l'acte. Erdogan, l'une de ses volontés, mais c'est le cas aussi de tous ceux qui utilisent l'islamisme dans leurs ambitions géopolitiques, Erdogan veut que nous, Français, nous disions « Oui, peut-être que nous sommes allés trop loin, peut-être que la liberté d'expression, c'est pas si bien que ça. » Il veut mettre le doute en nous, c'est-à-dire vous retombe dessus quelque chose que vous avez provoqué. C'est ça aussi contre lequel il faut lutter. L'impression que nous aurions une part de responsabilité parce que nous voulons rester fidèles à des valeurs de liberté d'expression et de liberté de caricature.
Mais c'est ce qu'on entend en France également, parmi des jeunes qui vous disent qu'ils ne comprennent pas parfois, en toute bonne foi, qu'on célèbre à ce point les caricatures de Mahomet et qu'on célèbre le fait, ils vous disent avec toute la bonne foi, qu'au fond on a l'impression d'attaquer gratuitement et de vouloir gratuitement choquer la religion d'un autre. Là où Emmanuel Macron revendique simplement le droit de blasphémer.
C'est le syndrome munichois. C'est-à-dire, si nous renoncions un petit peu à ce que nous sommes, eh bien, nos ennemis nous laisseraient tranquilles. C'est exactement comme ça qu'on a laissé l'hitlérisme se développer. C'est en expliquant que, bon, si on le laissait assouvir quelques revendications, si nous, on était plus discrets dans notre volonté de mettre la démocratie en avant, on aurait moins d'ennuis. On sait à quoi ça mène. Ça mène à ne gagner ni d'un côté ni de l'autre. Choisir le déshonneur pour ne pas avoir la guerre, c'est la certitude d'avoir et le déshonneur et la guerre. Là, il y a quelque chose de plus pervers encore, qui est de dire que, certes, les terroristes sont des coupables, que ce qu'ils font n'est pas bien, mais que derrière, la responsabilité, ça serait celle d'une société française qui ne fait pas ce qu'il faut pour être dans la tolérance à l'égard de ceux qui veulent développer l'islamisme. Et que si on était plus coulant, si on était dans l'accommodement raisonnable, eh bien, on n'aurait pas des actes terroristes dressés contre nous. Bref, il faut céder sur nos valeurs, la valeur de laïcité, la valeur de liberté d'expression, la valeur d'égalité homme-femme, pour avoir la paix et ne pas être ciblé par des terroristes. Si on commence sur cette pente, on est sûr de tout lâcher et de finalement tomber sous la coupe totale de cet islamisme.
Driss Aït Youssef, c'est vrai que la laïcité à la française n'est pas toujours bien comprise, alors évidemment dans le monde arabo-musulman, mais même dans le monde anglo-saxon. On sait ô combien la bataille de la France contre le voile a été mal perçue et on se souvient de certains éditos dans le New York Times qui considéraient que la France maltraitait certains de ses ressortissants au simple fait qu'ils voulaient afficher leur religion.
C'est toujours la difficulté entre l'interdiction et l'absence de pédagogie dans cette interdiction. C'est-à-dire qu'en fait, on n'explique pas pourquoi on le fait, on n'explique quelquefois pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement, dans ce que dit Christophe Barbier, il y a effectivement cette espèce d'incompréhension qui est instrumentalisée à des fins politiques, pour ne pas dire pour l'islam politique. Et Erdogan, c'est la parfaite illustration de, effectivement, cet individu qui est dans un islam politique à outrance, qui a d'ailleurs instrumentalisé sa société. C'est-à-dire que la société turque a été, était autrefois laïque, aujourd'hui elle est islamiste, et il est dans cette optique, il est dans ce rôle qu'il joue par ailleurs très bien, à la fois...
Utiliser l'islam pour s'affirmer
les incompréhensions. Ce sont les incompréhensions qui l'instrumentalisent, au point de dire, mais la caricature du prophète, c'est pas bien. Alors que nous avons, nous, les armes pour expliquer à nos enfants que c'est la liberté d'expression, et que la liberté d'expression, la liberté de caricaturer, la liberté de la presse, c'est une valeur fondamentale en démocratie et que nous devons l'accepter, même si ça ne nous fait pas plaisir, il faut l'accepter. À défaut d'avoir de la pédagogie, il va, lui, l'instrumentaliser et se faire le porte-parole de ces musulmans opprimés, humiliés, parce qu'il y a ces caricatures. Et il le joue très bien, il est dans son rôle, à la fois avant même ces événements, cette séquence que nous vivons, mais dans le monde arabe, face à l'Arabie saoudite, face à l'Égypte, face à d'autres pays arabes, où effectivement, il est lui le fervent défenseur, porte-drapeau de cet islam politique qui gangrène la région. On l'a vu dans le conflit qu'il a eu avec l'État israélien, où il prenait soi-disant la défense effectivement de ces Palestiniens musulmans opprimés par l'État israélien, et on le voit aujourd'hui qui part contre l'Europe, contre la France. D'ailleurs, y compris la Turquie ne trouve pas grand-chose à dire, elle est plutôt muette parce qu'elle sait qu'effectivement, elle peut avoir aussi des difficultés par rapport à ses ressortissants. Et puis la France, il pousse et il met en difficulté l'État français, il veut mettre en difficulté le gouvernement avec justement cet islam politique qu'il diffuse, dont on sait qu'il diffuse en France depuis quelques années.
Voilà, mais on a bien compris que la laïcité à la française n'était pas très bien acceptée partout dans le monde et qu'elle pouvait être instrumentalisée pour... pour se retrouver avec des attentats comme celui de ce matin. Question téléspectateur, pourquoi la ville de Nice est-elle ciblée pour la deuxième fois? Mathieu Delahousse, est-ce qu'on peut penser c'est tout simplement que l'assaillant est passé par la frontière italienne?
On est passé, non. Très franchement, je pense qu'on ne peut aujourd'hui pas faire d'analyse sérieuse sur le fait qu'on ait choisi Nice plutôt qu'autre chose. Il y a encore 5 ans, les spécialistes de l'antiterrorisme pouvaient travailler sur des filières et vous aurez répondu avec justesse d'ailleurs qu'à Nice, dans le quartier de l'Ariane, il y a un jeune djihadiste qui est toujours en vie, alors qu'on l'a donné mort plusieurs fois, qui s'appelle Omar Diaby, qui a créé une katiba sur place et qui aurait pu créer des combattants venant sur Nice. On aurait pu expliquer tel ou tel acte. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce genre d'explication rationnelle. Les événements terroristes qui se sont passés ces derniers mois, il y en a eu un roman sur Isère, il y en a eu à Villejuif, il y en a eu à Paris, rue Nicolas Appert, il y a eu effectivement Conflans. On est dans un désordre. Simplement, les propos sur la Turquie étaient très intéressants et très charpentés. Je veux juste, sur l'examen des jeunes terroristes passés à l'action, souligner un point qui n'est rien leur enlever, mais qu'effectivement, ils font assez peu de géopolitique sur leur smartphone. En réalité, ils sont dans ce discours de haine et de refus de la laïcité, bien davantage guidés par des comptes anonymes, par des émirs improvisés qui leur expliquent qu'effectivement, soit leurs frères musulmans sont des apostats, soit ils sont dans un pays de koufars, c'est-à-dire de mécréants. Et il y a une espèce de genèse confuse qui fait que... moi, quand j'avais fait le
message
livre...
de haine sur les réseaux sociaux, c'est très puissant, vous voulez
dire ? C'est très puissant, mais c'est pour ça que le gouvernement est dessus. Mais c'est un combat extrêmement difficile, mais c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore 2 ans, quand on voyait... correctionnel des jeunes djihadistes passés à l'action. Certains ne savaient même pas combien il y avait de piliers à l'islam. Mmh. Certains étaient des convertis, certains étaient des femmes, parce qu'il faut répéter effectivement la multiplicité des profils.
Une radicalité dans la haine.
Plus de convertis chez les femmes que chez les garçons, d'ailleurs.
Absolument, absolument, pour des tas de raisons. Mais juste sur ce point précis, c'est vrai qu'ils se contentent d'une espèce de mode confuse qui permet d'être dans un refus radical et que les grands mouvements politiques font partie d'une toile de fond, mais leur échappe en grande partie. Ceux qui sont partis en Syrie en 2014, 2015, 2016 sont partis sur une haine et sur une mode qui ressemblait à celle qu'on peut avoir dans l'adolescence pour un groupe de musique ou en tout cas pour une volonté de partir dans un lieu sans en connaître tous les tenants, les aboutissants. Aujourd'hui, ces passages à l'acte-là sont tellement désordonnées qu'on a encore du mal à les analyser, mais la certitude, c'est qu'on est très très loin de commandos organisés qui se sont dit on va taper telle date à Nice pour telle raison, on est dans quelque chose de beaucoup plus improvisé.
Mais Hélène Romano, justement, on se demande dans la tête qu'est-ce qui déclenche le passage à l'action comme ça. On est envahi par une, submergé par une colère qui fait que sans avoir rien prémédité, on va passer à l'acte.
Très difficile de vous répondre parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont passées à l'acte qui sont mortes. Donc on peut faire une anamnèse post-mortem, mais c'est compliqué, c'est avec l'entourage. Donc pour ceux qui sont encore vivants, on a différents profils. Et en effet, les discours qui sont avec l'inversement de la culpabilité pour essayer de donner une justification. Il vous est arrivé ça, mais vous l'avez bien cherché. Nous, on n'est que des victimes et on avait dit ça, mais il fallait nous écouter. N'est pas anodin pour certains jeunes qui peuvent être particulièrement influençables. Alors, moi, je ferai une hypothèse, mais en l'état actuel des éléments qu'on a, c'est juste une hypothèse. Je ne suis pas certaine que ce jeune, compte tenu du parcours qu'il a eu et du fait qu'il venait d'arriver, avait déjà un téléphone, un smartphone avec un abonnement et accès à tous les réseaux que les autres jeunes dans les attentats de Charlie, par exemple, et dans le Bataclan, pouvait avoir. Par contre, Nice est quand même une ville qui a été connue au niveau international pour les attentats du 14 juillet, ce qui n'était pas une date anonyme.
14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais.
Ça reste très, très présent.
14 juillet, oui.
Oui, 14 juillet. C'était quand même la date, la ville a été connue au niveau international et Notre-Dame a peut-être pour ce jeune, c'est lui qui le dira, un sens particulier. Est-ce que Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame, c'est un lieu, je ne sais pas si la cathédrale, la basilique s'était appelée autrement, il y aurait eu cet attentat, mais si on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune, il y a peut-être eu quelque chose de l'ordre de l'identification projective, ce qu'on appelle un peu les copycats, les gens qui vont commettre sur le même mode opératoire que d'autres un crime un peu similaire avec ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, parce qu'au niveau du mode opératoire, moi, les éléments que j'ai, c'est qu'il y a quand même des choses assez similaires. Même
on agit
isolé.
Par mimétisme. On a
certains,
vu une décapitation.
Pas toujours. En tout cas, celui-là, c'est une hypothèse qu'on peut faire, qui sera confirmée avec les expertises sur le profil de ce jeune homme. Il est extrêmement jeune, isolé, semble-t-il. Donc, qu'il soit arrivé à Nice, ce n'est pas une ville n'importe laquelle. Ça peut être le hasard pur, mais il y a quand même le passif des attentats de 2016 qui reste très présent dans la ville et Notre-Dame, qui est quand même aussi dans la transmission qui a été faite au niveau international, le lieu par essence de la culture chrétienne en France. C'est quand même la mère d'église, Notre-Dame de Paris. On a vu quand il y a eu l'incendie ce que ça a représenté. Ouais. Donc peut-être qu'il y a eu ça qui est rentré en ligne de compte pour expliquer pourquoi il a eu ce passage à l'acte-là. Après, il y a tous les autres éléments que vous avez donnés qui sont liés à la confession musulmane et les dates, les périodes, etc., qui ont un sens, les jours. Il y a eu beaucoup d'attentats les vendredis. Enfin, il y a tout ça qui est aussi à prendre en ligne de compte. C'est complexe. Et je pense qu'il faut, et c'est ça qui est difficile, garder cette notion de complexité et surtout éviter les amalgames, éviter le clivage au sein de notre société qui est déjà en grande souffrance insécurisée.
Christophe Barbier, il y a eu des réactions très fortes ce matin. On a entendu chez les politiques des mots très forts. D'abord Christian Estrosi, qui avait l'air d'être très ému parce qu'il vivait dans sa ville, qui a eu cette phrase. Il a appelé à s'exonérer des lois de la paix pour anéantir l'islamo-fascisme. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, les lois de la paix. Éric Ciotti, je le cite, « Je viens de demander au président Macron la suspension de tout flux migratoire, de toute procédure d'asile, notamment à la frontière italienne. » On voit bien qu'il y a une volonté chez les politiques de changer un peu les règles du jeu face à l'émotion que suscite ces attentats.
Il ne faut pas changer de méthode, il faut changer le cadre juridique. C'est aussi ce qu'a ajouté Éric Ciotti. Alors face à de tels attentats, à leur répétition et à l'impression qu'on a affaire à un terrorisme spontané, il faut éviter évidemment d'en faire appel aux représailles, à la vengeance, à la sortie de l'état de droit. Il faut rentrer dans l'état de droit, il faut rester dans l'état de droit. Il y a trois solutions qui sont offertes.
Dites ça par rapport à s'exonérer des lois de la paix.
Oui, parce que si on s'exonère des lois de la paix, c'est qu'on est dans les lois de la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire être dans les lois de la guerre? C'est très simple, c'est prévu par la Constitution. Article 35, état de guerre. La lecture de l'article est claire, ça ne peut être que la déclaration de guerre à un autre État. En l'occurrence, ici, il n'y a pas d'État. On ne va pas déclarer la guerre à la Turquie pour les provocations d'Erdogan. Il n'y a pas d'État en face de nous, même Daesh n'était pas vraiment un État. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre de la part de la France depuis 1939. Alors, il y a aussi l'article 36, qui est l'état de siège. L'état de siège, c'est autre chose. Ça veut dire que sur une partie du territoire français, par exemple une ville, on déclare l'état de siège, c'est-à-dire que les pouvoirs civils sont transférés aux autorités militaires. C'est le gouverneur militaire qui prend les commandes par-dessus le préfet, par-dessus les tribunaux, et qui a le droit de perquisitionner n'importe qui, d'interdire la liberté de circulation, d'assigner à domicile, et éventuellement d'expulser du territoire en question quelqu'un dont on peut penser qu'il pourrait être dangereux. Vous voyez, c'est vraiment des lois d'exception. Est-ce que c'est politique ? Christian Estrosi, mais Marine Le Pen a aussi pris le vocable de la guerre. Est-ce que ces politiques veulent qu'on décrète l'état de siège ? Et si oui, où ? Conflans-Sainte-Honorine, maintenant Nice, où la prochaine fois ? Et puis enfin, il y a un troisième cadre juridique qui n'est pas dans la Constitution, parce qu'on n'a pas voulu l'y mettre, ni en 2016, François Hollande avait tenté, ni en 2008, quand la commission Balladur l'avait proposé, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence, les Français le connaissent bien, pas seulement sous sa forme sanitaire actuelle, mais aussi parce qu'on l'a déployé, cet état d'urgence, lors des émeutes de 2005, ou bien entendu, lors des attentats de 2015-2016. Cet état d'urgence, c'est une loi de 1955, on pourrait encore lui donner une valeur constitutionnelle. Le comité Balladur proposait de la rajouter à ce fameux article 35. On peut le faire. Il n'empêche que la réponse immédiate, ça doit d'abord être, avant d'être une réponse de cadre juridique, une réponse de moyens pratiques.
Qu'est-ce que ça permettrait, cet état d'urgence, s'il était dans la Constitution ?
S'il est dans la Constitution, ça permet ensuite que des textes de loi ne soient pas censurés par le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel, ne voyant pas l'état d'urgence dans la Constitution, regardera d'autres textes, notamment le préambule de la Constitution, la liberté, l'égalité des citoyens, et peut casser des textes.
Driss Ait Youssef, et c'est vrai que, on le sait très bien, là, dans la loi sur les séparatismes, il y a aussi cette idée, là, il y a des djihadistes qui vont sortir de prison. Techniquement, ils ont purgé leur peine, donc ils sont libres. On sait que le gouvernement veut continuer, d'une façon ou d'une autre, à les cornaquer. Et le Conseil constitutionnel dit, bah non, quand on sort de prison et qu'on a fait toute sa peine, on est libre.
Alors, il y a deux choses. D'abord,
je ne sais pas si je résume bien la situation.
Oui, alors, ils ont parlé de la proportionnalité.
Il y a deux choses. D'abord, effectivement, sur la loi de 55 et sur l'état d'urgence, il y a deux dispositions qui ont été transposé dans le dispositif de droit commun. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est sur des procédures administratives qui ont été transférées dans le Code de sécurité intérieure, dans le Code pénal. C'est ces mesures d'assignation de surveillance individuelle, c'était les assignations à résidence avant, et ensuite ces visites domiciliaires, ce qui était des perquisitions administratives avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, classiquement, l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet, peut décider, avec l'appui maintenant du JLD, du juge des libertés de la détention, d'aller faire une perquisition chez un individu en dehors du cadre judiciaire. C'est-à-dire que normalement, une perquisition, c'est le juge qui décide d'aller perquisitionner chez un individu. Donc ça permet, si vous voulez, d'aller vite. On se passe finalement de la procédure judiciaire et du juge qui est considéré quelquefois un peu trop lent. Donc là, on y va, on assigne à résidence des individus
parce
qui pourraient poser.
On soupçonne que quelqu'un serait en intelligence sur un...
Et oui, mais c'est ce qu'a dans le bilan de Jean Castex, quand il indiquait qu'effectivement, il y avait eu des perquisitions sur les 126, 56 avaient été réalisées. On est dans un dispositif de droit administratif, on est dans la police administrative, c'est de la prévention et non de la répression. Ensuite, sur l'autre sujet qui est la censure...
Mais si je comprends bien, c'est un peu limite, ça, du point de vue constitutionnel, parce que c'est un peu l'ère du soupçon. Hein. Il y avait la loi des suspects, on n'est plus très loin. Quoi,
c'est,
non
ça, c'est pour ça qu'on y a mis le JLD, le juge des libertés de la détention, d'accord, qui est un juge judiciaire, qui est un peu le garant de la liberté, parce que l'article 66 de la Constitution indique que seul le juge judiciaire, l'autorité judiciaire, est gardienne des libertés individuelles. Donc du coup, on a un juge judiciaire, et pour le coup, ça permet de cadrer un peu la procédure. Ensuite, sur la décision du Conseil constitutionnel sur la censure de la loi visant à instaurer un régime de surveillance judiciaire pour les détenus terroristes, le Conseil constitutionnel, dans ses commentaires extrêmement intéressants, nous dit d'accord, d'abord, il faut vous assurer que vous avez été en mesure de procéder à une réinsertion, à un accompagnement pour soigner l'individu en prison, parce qu'on considère que voilà. Et puis ensuite, lorsque vous renouvelez cette surveillance judiciaire, il faut nous indiquer le motif pourquoi vous voulez renouveler. Bah oui, parce que quand à un moment donné, l'individu, ça peut durer 10 ans, l'individu va sortir de prison. Vous dites, vous présentez à juste raison une menace pour l'ordre et la sécurité publique, une menace particulièrement grave. Donc on va vous assigner à résidence ou on va mettre un bracelet électronique, par exemple. Donc là, il va sortir de prison, on considère qu'il est une menace parce qu'on a le renseignement pénitentiaire qui dit, il fréquente, il est là, on l'a entendu, etc. Et puis ensuite, quand vous allez renouveler au bout d'un an, vous allez renouveler, il vous faut motiver le renouvellement. Et là, le législateur n'a pas prévu de dispositif visant à justifier. Et le Conseil constitutionnel lui dit, il vous faut des éléments probants. Et là, la difficulté, c'est que c'est là où on a une limite sur le renseignement, c'est que si les policiers, si l'autorité administrative dit, voilà nous les écoutes que nous avons, voilà les filatures, l'individu qui va faire l'objet d'une mesure de surveillance, il va comprendre qu'il est surveillé. Donc du coup, ça pose une difficulté. Donc on est sur des éléments un peu techniques qui fait que cette loi a été retoquée, mais qui peut, j'ai envie de dire, être revotée demain parce que le Conseil constitutionnel trace la voie à la constitutionnalité d'un tel dispositif demain.
Alors, après le meurtre de Samuel Paty il y a 2 semaines, le gouvernement a promis une réaction d'ampleur pour contrer la menace terroriste en France. L'objectif, poursuivre ceux qui, de près ou de loin, contribuent à attiser la haine dans le contexte de publication des caricatures de Mahomet. Sujet de Laura Rado et Benoît Thébault.
Après le dernier au revoir à Samuel Paty, dans la cour de la Sorbonne, la semaine dernière, l'enquête se poursuit, avec son lot de questions. L'auteur de l'attentat, Abdullah Anzorov, a-t-il bénéficié de complicité? Qu'est-ce qui a poussé le Tchétchène de 18 ans à commettre un tel acte? En tout, 7 personnes sont au cœur des investigations. Brahim C., parent d'élève de 48 ans, c'est l'auteur d'une vidéo critiquant le professeur d'histoire quelques jours après son cours sur la liberté d'expression.
Ce voyou ne doit plus rester dans l'éducation nationale, ne doit plus éduquer des enfants.
Les policiers ont retrouvé des échanges de messages avec le terroriste. Il est aujourd'hui mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste, de même qu'Abdelhakim Sefrioui, militant islamiste, dans le radar des services de renseignement. Tous deux sont en détention provisoire.
Il est aujourd'hui clair que le professeur a été nommément désigné comme une cible sur les réseaux sociaux par les deux hommes au moyen de manœuvres et d'une réinterprétation des faits.
Deux amis de l'assaillant sont aussi poursuivis pour complicité d'assassinat terroriste. L'un d'eux a reconnu l'avoir déposé à proximité du collège. Un troisième est soupçonné de s'être radicalisé à ses côtés. Enfin, 2 collégiens ont été mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste. Ils auraient désigné l'enseignant au jeune Tchétchène contre 300 euros.
Il a en effet reproché de s'être maintenu en présence directe et prolongée d'Abdullah Anzorov l'après-midi du 16 octobre, après que ce dernier leur a fait savoir qu'il souhaitait entrer en contact avec M. Samuel Paty et d'avoir permis l'identification de ce dernier en le désignant, et ce, contre rémunération.
Les 2 mineurs placés sous contrôle judiciaire risquent jusqu'à 20 ans de prison. Suite au choc provoqué par la décapitation de l'enseignant, l'exécutif avait promis des actes contre l'islam radical. Il a mis ses menaces à exécution, avec d'abord la mosquée de Pantin, fermée pour 6 mois. Son tort, avoir relayé sur les réseaux sociaux la vidéo du parent d'élève. 2 associations sont également dans le viseur des autorités. L'ONG Baraka City, jugée proche de la mouvance islamiste radicale, vient d'être dissoute en Conseil des ministres. Gérald Darmanin promet le même sort au collectif contre l'islamophobie en France.
Pourquoi je dis que c'est une officine islamiste ? Bah lorsqu'on gèle les avoirs de personnes qui envoient des personnes faire du djihad ou promouvant le djihad, on a gelé les avoirs, hein, d'autres gouvernements l'ont fait. Par exemple, le CCIF évoquait, je cite, « Si leurs avoirs sont gelés, soyons de ceux qui compenseront ces pertes ». Ça s'appelle une officine. Quand quelqu'un veut mettre financièrement l'argent à disposition de ceux dont la République pense, prouve qu'ils ont un lien avec le djihad, ça s'appelle une officine islamiste. Ça n'a rien à faire sur le sol de la République.
Le gouvernement compte aussi durcir la riposte sur les réseaux sociaux. Une étudiante de Besançon a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Elle avait écrit sur Facebook que Samuel Paty méritait de mourir. Le Premier ministre promet à ce sujet des moyens supplémentaires.
La surveillance des réseaux sociaux et la lutte contre la haine en ligne seront intensifiées. Ainsi, la plateforme Pharos sera renforcée sans délai en termes d'effectifs et un pôle spécialisé au sein du parquet de Paris sera créé pour centraliser les poursuites et donc en améliorer l'efficacité.
2 semaines après l'attentat, le retour sur les bancs de l'école est minutieusement préparé par Jean-Michel Blanquer. La journée du 2 novembre devrait s'articuler autour d'une minute de silence à 11h15, un moment de rassemblement de tous les élèves en hommage au professeur Samuel Paty.
Question téléspectateur de Michel dans les Yvelines. Les écoles seront-elles protégées pendant la minute de silence lundi 2 novembre ?
En tout cas, il y a des demandes de protection qui ont été faites, de vigilance renforcée. Et puis là, on passe à un niveau Vigipirate tel que le déploiement de Sentinelle d'ici lundi devrait être à même d'assurer cette protection.
Il y avait une note de police d'ailleurs stipulant que les églises pouvaient être attaquées, qui date de lundi dernier. C'est très difficile, on imagine, de défendre une église, mais...
Si on ajoute le nombre des lieux de culte et le nombre d'établissements scolaires et qu'on veut mettre des policiers devant chacun, ça va être compliqué.
Hélène Romano, lundi, c'est le retour à l'école. C'est le retour à l'école en plus sous confinement. Est-ce que les enfants sont stressés, on imagine, à l'idée de retourner dans cette école? Et la minute
stressé,
de silence, comment ça se passe?
Stressé, c'est un faible mot. Alors, pour reprendre la sécurité physique, elle semble être assurée, mais la sécurité psychique, pas du tout, parce que les enseignants, à juste titre, ont peur. Il y a un certain nombre d'enseignants qui ont eu des propos d'élèves, mais ils n'ont pas forcément pu la remonter parce qu'ils avaient peur des représailles d'élèves qui trouvaient que c'était très bien que ce soit passé comme ça. On a vu pareil au moment de Koulibaly, au moment de Mohamed Merah, d'élèves qui étaient plus à demander une minute de silence pour les terroristes et pas du tout pour les victimes. Et il y a des enseignants qui, face à ça, ont une peur physique. Et pour le coup, là, l'histoire montre que la peur, elle n'est pas irraisonnable. Donc, ils ont vraiment besoin d'un soutien du ministre.
Quand Jean-Michel Blanquer demande à ce que tous les élèves qui perturberaient la minute de silence, eh bien que toutes ces informations remontent, vous dites... C'est pas facile, il faut une bonne dose de courage de la part des enseignants.
C'est difficile parce qu'on a malheureusement l'exemple, et nous sur le Val-de-Marne, on l'avait eu avec Koulibaly, avec l'hypercachère, dans les établissements scolaires et avec Mohamed Merah, quand il y a eu la minute de silence, entre les chiffres transmis par le ministère et les chiffres réels, il y avait un gouffre absolument phénoménal. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voulait éviter les conflits au sein des établissements scolaires entre des élèves de confessions différentes. Donc, la paix sociale au sein des classes, c'était important. Donc, il y a des enseignants qui n'ont même pas fait la minute de silence parce qu'ils ne voulaient pas entraîner des choses compliquées, parce qu'ils savaient que ça allait être compliqué. Puis, vous avez des enseignants qui ont eu des élèves qui ne voulaient pas faire la minute de silence et qui, ostensiblement, ont dit pourquoi, comme cette jeune fille qui a été condamnée pour l'avoir mise sur Facebook. Mais il y en a qui l'ont dit à des enseignants qui n'ont pas oser forcément le dire. Les enseignants actuellement ont peur. Ils ont une peur physique, ils ont une peur qui est tout à fait compréhensible, comme les journalistes après Charlie avaient peur. Les enfants d'enseignants ont peur. Il y a un vrai besoin d'un soutien du Premier ministre, du ministre de l'Éducation nationale, du chef de l'État, avec une aide qui soit officielle, qu'on explique la minute de silence. La minute de silence, historiquement, ça a été fait pendant la Première Guerre mondiale en hommage aux soldats disparus. Et 11h15, c'était dans les textes. C'est tout à fait particulier de repositionner aussi l'histoire. C'est un temps qui sert à recréer du lien au niveau communautaire, au niveau de la solidarité d'un établissement scolaire. C'est très important de le dire. Mais les minutes de silence, comme on voit sur la photo, dans des cours entières, dans des classes entières, nous on l'a eu dans un établissement scolaire où un élève est mort, on a eu les cousins qui avaient été tués par un autre élève, qui ont mis un psaume du Coran en boucle sur un iPod, et on n'était quand même pas très bien pour gérer 2000 élèves. Donc il faut aussi avoir la notion de ce que ça implique, bien expliquer ce qu'est la minute de silence, et surtout soutenir les enseignants à qui on demande tout, et à un bout d'un moment, ils ne peuvent plus faire leur travail.
Soutenir les enseignants, Driss Aït Youssef, on voit combien on le paye cher quand même, ce pas de vague, hein, qu'on a tous un petit peu découvert à l'occasion de la décapitation et de l'attentat contre Samuel Paty, qui font qu'aujourd'hui, les enseignants s'autocensurent, n'osent plus faire certains cours, et pire que ça, vous venez de très bien l'expliquer, ont peur devant certains de leurs élèves.
Oui, mais c'est cette violence qui a fini par pénétrer dans les établissements scolaires avant, alors qu'avant c'était un sanctuaire, l'établissement scolaire, de transmission de la connaissance. Et on a vu d'ailleurs ce basculement maintenant depuis quelques années, où on a eu ces enseignements contestés, le contenu contesté, je ne suis pas d'accord, on a beaucoup parlé du darwinisme, de la biologie, de la géopolitique, de l'histoire, et on a vu ensuite des étudiants, pour d'autres raisons que des raisons religieuses, se faire taper dessus par des étudiants. On a vu, je ne sais plus, dans le Val-de-Marne, un professeur confisquer le pistolet d'un élève qui s'est aussitôt levé et lui a mis une baffe. Et puis là, on a vu l'assassinat absolument atroce de Samuel Paty. Aujourd'hui, cette violence, elle fait partie du quotidien de l'enseignement. Et il doit composer avec ça au même moment où effectivement il est un peu submergé par cette génération qui n'est plus la même génération qu'avant, alors même que le professeur, on devrait regarder sa formation qui est probablement beaucoup plus courte, mais on a aujourd'hui affaire, en tout cas les enseignants ont affaire à une génération qui n'est plus la même, qui a un rapport à la violence, qui n'est plus la même, qui a un rapport à la vie, à la société. On l'a dit sur ce plateau.
Pourquoi qui n'est plus la même, le rapport à la violence ?
Mais parce que l'élève, quand il arrive en classe, il sait déjà beaucoup de choses et mieux que le professeur. Imaginez-vous sur des histoires de liberté, ou en tout cas d'éducation civique. Le professeur, il a 2h30 par semaine sur 33 semaines. Ce n'est pas suffisant pour déconstruire ce qu'un gamin a déjà dans la tête, qu'il a déjà des idées préconçues extrêmement précises sur tel conflit ou sur telle situation dans le monde. Et il va falloir faire un travail de déconstruction parce que le gamin, il se construit au quotidien. Là où le professeur intervient 2h30 par semaine, et encore, c'est, je trouve que s'il intervient 2h30, c'est bien. Il va falloir faire un travail de déconstruction, puis ensuite de reconstruction. Vous imaginez le travail pour une classe de 30 à 35, c'est quasiment impossible. Donc il est obligé de composer avec ça, et avec un travail disciplinaire au quotidien, quelquefois dans certains territoires, avec des élèves qui ne laissent pas faire cours. Donc elle est là aussi la difficulté, ou en tout cas le quotidien des enseignants. Donc cette violence, elle fait partie intrinsèque, j'ai envie de dire, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle de l'enseignant, à tel point que vous avez dans certains territoires, dans certains départements, en particulier dans certaines banlieues, où vous avez des professeurs de mathématiques, où vous avez des professeurs d'histoire qui sont absents 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce qu'ils n'en peuvent plus. Elle est là aussi la réalité du quotidien.
Christophe Barbier, elles n'en peuvent plus parce que quand on sait d'où vient l'école publique, c'est l'école laïque qui s'est construite contre la religion. Hein, on parlait des écoles sans Dieu même autrefois. Et donc évidemment, on comprend le désarroi aujourd'hui de certains enseignants qui ont vu au combien le fait religieux s'est invité au sein de ce que vous appeliez autrefois un sanctuaire.
Oui, cette école avec la Troisième République a dû mettre un savoir rationnel dans la tête d'enfants où il pouvait y avoir ce que les familles apprenaient et ce qu'on attendait aussi, ce que l'on entendait dans les églises. Ça s'est fait non sans conflit, non sans difficulté, mais ça s'est fait aussi avec un autre projet qui était à travers l'école obligatoire, d'un projet d'ascension sociale. C'est-à-dire qu'on disait aux familles, avec l'école républicaine, votre enfant vivra mieux que vous demain. Il va pouvoir accéder à d'autres connaissances, ne serait-ce que lire, écrire, compter, pour ne plus être dans la misère où vous êtes. Et donc l'association avec les parents était plus facile. Aujourd'hui, on n'a plus cette promesse-là, c'est plus la fonction de l'école. Et les enfants qui sont récupérés par l'école, à partir du primaire, nous ne comptons pas la maternelle, sont déjà formatés par les familles, par les écrans, par tous les moyens technologiques modernes. Et donc, le travail de l'école est beaucoup plus difficile. La promesse, la carotte, pour tout dire, ne peut pas être au rendez-vous parce que nous sommes dans une société qui est très différente. Et la coercition ne marche plus. Parce que cette école de la Troisième République, elle enlevait les enfants les plus doués aux familles paysannes, parce que l'instituteur avait dit, lui, ça va être un boursier, donc on lui donne de l'argent, on l'envoie à la ville et on en fera un instituteur. Et la famille n'avait pratiquement pas son mot à dire dans ce cas-là. Hein. Pas question de vouloir garder des bras à la maison. Donc il y avait la promesse d'ascension, mais il y avait aussi la coercition républicaine. On ne peut absolument plus fonctionner comme ça aujourd'hui. C'est devenu inacceptable, indéfendable, et les enseignants ne voudraient pas être dans un acte de coercition. Ça rend leur mission extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. C'est pour ça que l'État doit s'adresser aux parents. L'État doit s'adresser aux parents pour qu'ils respectent le prof. On a vu avec l'affaire tragique de Samuel Paty à quel point la contestation du prof était devenue quelque chose de naturel, une sorte de droit du consommateur d'école. Et s'adresser aux parents aussi parce que s'ils gâchent leur enfant, l'école ne pourra pas tout réparer et c'est toute la vie de leur enfant qui sera gâchée. Est-ce que l'État est capable de s'adresser aux parents à travers les élus locaux, par exemple, à travers des associations? En tout cas, c'est un grand défi.
Il faut juste ajouter sur l'itinéraire des djihadistes que la perfection du parcours scolaire dans certains dossiers n'empêche pas la conviction. Et c'est ça qui nous bouscule. Ah oui. Quand on se retrouve face à eux dans les tribunaux,
juif, hein.
C'est ce qui nous bouscule sur beaucoup de choses. Glam est un ingénieur intelligent, Sid Ahmed Glam qui est jugé actuellement. Belhoussine, Mohamed et Mehdi, qui étaient deux frères, qui sont partis, l'un d'entre eux, pour convoyer Hayat Boumediene juste avant, les attentats de Charlie. L'un d'eux a fait mine. Beaucoup ont suivi des parcours exemplaires au niveau de l'école de la République. Et souvent, moi, j'ai vu des magistrats désemparés face à des jeunes gens qui étaient arrêtés dans des tentatives d'attentats.
Les gens brillants, insérés, basculent.
Mais ça s'explique simplement parce qu'ils n'adhèrent pas aux valeurs véhiculées par l'école de la République. Ils s'en servent, ils sont brillants. Le fanatisme et l'idéologie islamiste n'incluent pas forcément la bêtise crasse et le manque d'intelligence. Il y a des idéologues, il y a des théologiens, simplement ils ne suivent pas le même ascenseur dont on parlait à l'instant. Et je pense qu'il faut casser nos codes de lecture sur le fait que ça serait tellement simple que ce soit uniquement les idiots utiles de l'islamisme qui, avec des petits pois dans la tête, prennent la Kalachnikov pour passer à l'action sur un simple message sur leur téléphone. Ça se passe jamais comme ça. Et simplement, ce dont on parlait tout à l'heure sur le rôle de la propagande, quel que soit le niveau de terrorisme, que ce soit effectivement des commandos très organisés ou quelqu'un qui passe à l'action comme le jeune Tchétchène de 18 ans dont on parlait, il y a ce vecteur de l'information, ce vecteur de la conviction brutale auquel il croit. Je pense que définitivement, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt en disant « ils n'y croient pas vraiment, on les a manipulés, etc. » Souvent, ils ont cette conviction. Ils n'ont pas envie d'être déradicalisés, ils veulent y aller.
Alors ce matin, ce sont donc deux fidèles et le sacristain de la basilique Notre-Dame de Nice qui ont été assassinés. Une attaque dans une église, et ça n'est pas une première en France. On se souvient notamment, on l'a dit, de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray qui avait coûté la vie au père Jacques Hamel. Paul-Rémy Barjavel avec Mélanie Nunes et Pierre Millet-Bellando.
Il est 15h. L'église de Saint-Étienne du Rouvray sonne le glas, comme de nombreuses églises de France, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice ce matin. Mais ici, il résonne différemment pour Maria et Sébastien, sacristains depuis 18 ans.
Ça me fait revivre ce que j'ai déjà vécu. Voilà, parce que ces personnes-là, c'est la même chose, dans une église, en train de prier. Ma première chose, ça a été de prier pour ces personnes-là. Voilà, que je connais pas, mais peu importe. Ce sont des chrétiens, nous sommes chrétiens. Voilà, et donc le mal, ça revient.
Une attaque terroriste qui frappe une église, 4 ans après celle qui a coûté la vie au père Jacques Hamel. Le 26 juillet 2016, il est 9h30 quand la messe débute. Deux hommes munis d'armes blanches pénètrent dans l'église. Le prêtre Jacques Hamel, 86 ans, est égorgé. Un autre otage est grièvement blessé. Les deux assaillants sortent et sont abattus sur le parvis de l'édifice. Quelques heures plus tard, une revendication tombe. L'État islamique affirme que les auteurs sont deux de ces soldats. Dans cette vidéo, Abdelmalik Petitjean et Abdelkerim Chagoche, 19 ans tous les deux, prêtent allégeance à Daesh. Quelques jours avant l'attaque, Abdelkerim publie des messages audio sur les réseaux sociaux et annonce sa cible, une église. Quelques semaines plus tard, c'est la cathédrale Notre-Dame à Paris qui sera visée par le terrorisme islamiste. Sur ces images, Inès Madani, lors de son interpellation. La jeune femme a 19 ans. Refusant de se rendre, elle s'est précipitée armée d'un couteau en direction d'un policier.
Dans le sac à main d'Inès M., les enquêteurs ont pu découvrir un document manuscrit dans lequel elle fait allégeance à l'État islamique et dans lequel elle indique « Je vous attaque dans vos terres afin de marquer vos esprits et de vous terroriser ».
Son ADN a été relevé quelques jours plus tôt dans cette voiture abandonnée près de Notre-Dame. Un véhicule chargé de 6 bonbonnes de gaz vouées à l'explosion, le carnage a été évité de peu. Elle fait partie des 5 femmes accusées d'avoir voulu lancer des attaques en suivant les consignes de Rachid Kassim, propagandiste de Daesh, présumé mort en Syrie. Elles comparaissent devant la cour d'assises spéciale antiterroriste à Paris depuis fin septembre. 25 et 30 ans de prison ont été requis contre les deux principales accusées. Autre attaque déjouée contre une église, celle de Villejuif, en 2015. Quelques mois après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, Sid Ahmed Glam, fiché S pour radicalisation islamiste, est interpellé. Une fouille chez lui et dans sa voiture révèle un arsenal en vue d'une attaque terroriste prévue à l'heure de la messe dans une église de la ville. Dans son véhicule, les enquêteurs découvrent un fusil Kalachnikov, 2 pistolets et 2 couteaux.
Une documentation fournie a également été découverte, établissant sans ambiguïté que l'individu projetait la commission imminente d'un attentat, vraisemblablement contre une ou deux églises. Dimanche matin, cet attentat a été évité.
Peu avant son interpellation, le corps d'Aurélie Châtelain est retrouvé. Elle aurait été abattue le jour même par le djihadiste présumé. Sid Ahmed Glam est actuellement jugé par la cour d'assises spéciale de Paris. Le tribunal s'est penché notamment sur les commanditaires de l'attaque avortée qui pilotait l'opération depuis la Syrie. Et les églises sont pour eux des cibles privilégiées.
C'est exactement le mail qu'il a reçu de ses commanditaires de Syrie. Trouve une bonne église avec plein de gens dedans. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Nice, c'est malheureusement l'attentat que Sid Ahmed Glam n'a pas pu perpétrer, c'est-à-dire égorger ces chiens de Français, égorger ces mécréants et mettre en scène leur supplice.
Dans ce procès, les plaidoiries commencent demain. Le tribunal doit rendre son verdict très prochainement.
Question téléspectateur, faut-il désormais avoir peur de pratiquer sa foi catholique et d'honorer ses défunts à la Toussaint en France, puisque les églises seront ouvertes dimanche prochain, ça sera pas encore, elles ne seront pas encore fermées. C'est Emmanuel Macron, Idriss Aït Youssef, qui a déclaré ce matin, une nouvelle fois les catholiques sont attaqués et menacés avant les fêtes de la Toussaint, menacés.
Oui, ils sont clairement menacés, au même titre qu'effectivement nos compatriotes de confession juive. Et dans le même temps, quand j'écoutais tout à l'heure sur le plateau, sur un plateau télévision, Monseigneur Rouget qui disait qu'il n'y avait pas finalement cette inquiétude et qu'il s'en remettait à Dieu. Je trouvais que c'était une belle parole et qu'ils allaient prier pour la paix. Et je trouve que c'est des paroles qui sont à la fois réconfortantes mais qui n'enlèvent rien, hélas, au danger qu'ils subissent aujourd'hui et des menaces dont ils sont l'objet. Ouais.
Christophe Barbier, quand le pape dit « Je prie pour le bien-aimé peuple français », qu'il puisse réagir au mal par le bien. Est-ce que derrière, il y a, pourquoi on dit ça ? Parce qu'il y a la tentation peut-être de la rétorsion, d'entrer dans une escalade ?
Oui, oui, bien sûr, il y a une tentation multiple d'escalade. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait tous s'armer à l'américaine pour pouvoir se défendre et être dans une société de la milice et de la vengeance et de la représaille. Il y a ceux qui pensent qu'il faut abolir notre état de droit ou l'écorner pour lutter contre l'islamisme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les différents états de guerre qu'on pourrait mobiliser. Ceux qui pensent aussi que, comme le problème est venu de l'immigration, eh bien, il faudrait abolir le droit du sol pour faire en sorte que les enfants d'immigrés n'aient pas la nationalité française, qu'on puisse les déchoir et les expulser. Toutes ces possibilités politiques et juridiques, elles vont venir dans le débat, surtout à l'horizon de la présidentielle. Ce qu'il faut absolument, c'est réussir à rester dans le cadre d'un débat où l'on n'oppose pas les catholiques et les juifs d'un côté et les musulmans de l'autre. C'est ce que cherchent aussi les islamistes, c'est se provoquer une forme de guerre civile sous forme religieuse. Il faut absolument expliquer sans cesse que l'islam n'est pas un problème. L'islam a un problème. Il a un problème qui s'appelle l'islamisme, qui en son sein fait des ravages et qui projette aussi ses ravages vers les autres communautés, vers les autres pays. Si on est dans ce discours-là, on peut espérer que la communauté musulmane se construise, s'organise et agisse pour, en son sein, repérer ceux qui sont dans l'islamisme et ceux qui pourraient passer à un acte terroriste. On n'y est pas, parce que cette organisation n'est pas faite. On doit nous en parler dans la loi qui était prévue pour le 9 décembre et qui devrait arriver avant. Et cette organisation n'est pas faite et on ne peut pas agir ainsi tous ensemble.
Voilà, et pour une note d'espoir, signalons cette dépêche qui signale que des musulmans de Marseille appellent à se rassembler ce soir devant Notre-Dame de la Garde, la fameuse Bonne Mère, pour, je cite, « assurer leur soutien à leurs frères chrétiens et à déposer une gerbe ». Voilà. Tout de suite, on passe à vos questions. Pourquoi la France est-elle particulièrement ciblée ? On l'a dit, Nice ce matin, Jeddah aujourd'hui également. Est-ce que, Christophe Barbier, on le disait, la France symbolise par son combat laïcard une attaque contre le... on a même vu que le Maroc, le secrétaire des Affaires étrangères au Maroc, a parlé d'un acte de provocation au sujet de ces caricatures.
Oui, il y a ce débat depuis très longtemps, depuis la publication des caricatures et même de manière plus ancienne, ce combat entre la France laïque et des pays qui non seulement ne veulent pas de la laïcité pour eux, ça c'est leur droit, mais voudraient qu'on l'on renonce à, nous, à la laïcité et à tout ce qui va avec, la liberté d'expression, pour ne pas par notre existence les choquer dans leurs valeurs. Donc c'est évidemment inacceptable. Il faut voir aussi que les foules, ça se manipule. Rappelez-vous que dans d'autres moments géopolitiques, je pense à des initiatives de Jacques Chirac, eh bien les foules descendaient pour dire « Vive la France
eh ». Oui.
Vous voyez, on a affaire aussi à la politique de manipulation dans ces pays-là.
Mais les foules, ça se manipule. Je pense que dans ce dossier-là, c'est un peu l'essentiel. Le 10 septembre dernier, le communiqué d'ACPA, Al-Qaïda sur la péninsule arabique, met en avant une information fausse. C'est le fait de dire qu'Emmanuel Macron a soutenu Charlie Hebdo, alors qu'en fait, il a soutenu effectivement le droit au blasphème. Mais c'est de confondre Charlie Hebdo, les caricatures, avec le chef de l'État, avec la France, avec tous les Français, et effectivement de manipuler par une information biaisée et colportée par des réseaux sociaux dans le monde entier, une information qui est fausse en disant « prenez-vous à la France, prenez-vous, il faut s'en prendre pardon, aux Français ».
Les foules, ça se manipule, ça veut dire que les Français de l'étranger ont des raisons parfois d'être inquiets, enfin, où ils peuvent…
L'actualité ils le aujourd'hui sont. L'a montré, oui.
Les services de renseignement semblent débordés, ont-ils tous les moyens pour agir, Idriss Aït Youssef ?
Moi, je pense qu'ils ont beaucoup de moyens et je pense qu'on met effectivement sur leurs épaules une charge finalement qui n'est pas la leur. C'est-à-dire qu'ils ont une charge, leur mission, c'est de procéder à de relever d'informations. On est en police administrative et ensuite qui judiciarise. Et là, dans les cas que l'on connaît, sur les trois derniers individus qui ont commis des attentats, a priori, on verra ce que ça donnera pour le dernier, mais ils ne sont pas connus des services de renseignement. Donc, étant entendu que la DGSI est chef de file de la lutte antiterrorisme en France et qui s'occupe plutôt du haut du spectre. C'est quoi ? Ce sont ces condamnés pour terrorisme, ces djihadistes qui sont à l'étranger et qui comptent revenir. Donc, il y a vraiment un travail. Ce qu'on ne dit pas assez, bon, il faut le dire, c'est que depuis 2013, vous avez plus de 60 attentats qui ont été évités, tentatives d'attentat. Et si on regarde dans un temps extrêmement court, là, en début de semaine, il y a peut-être eu aussi des tentatives d'attentat qui ont été déjouées. On ne le sait pas, on ne le saura que plus tard. Mais il faut avoir à l'esprit qu'ils ne pourront pas, à eux seuls, j'ai envie de dire, écarter toutes les menaces, surtout celles qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas connus et qui pourraient passer à l'acte avec un couteau. Ils sont extrêmement bien renseignés. Mais il y a beaucoup de monde à surveiller. On a parlé de ces individus qui sont détenus pour terrorisme, qui se sont radicalisés en prison, les 8000 qui sont au FSPRT, les milliers qui sont au fichier S. Et donc, pour un individu, si on veut bien cerner son entourage, il faut à peu près une quinzaine, voire une vingtaine de policiers. Alors, aujourd'hui, vous avez quand même un soutien avec des outils techniques, numériques, de captation de données, mais ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, il y a quand même une charge qui est extrêmement importante pour eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas leur travail, ça veut dire qu'ils sont occupés sur plusieurs fronts et que ces individus, hélas, ils passent sous le radar.
Un hommage juste aux policiers municipaux, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux que ça a pu être à éviter un carnage encore plus fort. Et on ne les valorise pas suffisamment. Ils font un travail assez considérable. À eux, pour le coup, pas toujours avec assez de moyens. Et on en a besoin dans les villes.
Christophe Barbier, le Rassemblement national bénéficie-t-il d'une dynamique dans les sondages depuis ces actes barbares ? C'est Aurélien Taché qui dit « on déroule le tapis rouge à Marine Le Pen en vue de 2022 ».
Dans les dernières semaines, Marine Le Pen a plutôt progressé dans les sondages. Et chacun a noté sa modération, les propos graves qu'elle a tenus, ses réactions souvent à temps différé. Ce matin est une exception. Elle est sortie très vite de l'Assemblée pour pouvoir s'exprimer. Elle a été complètement aux côtés du président de la République quand Erdogan s'en est pris à Macron en expliquant qu'il devait surveiller sa santé mentale. Donc il y a visiblement chez elle une nouvelle stratégie, qui n'est pas une stratégie de la réaction par la colère, la provocation ou l'excitation des foules, mais au contraire, montrer qu'elle est dans la fermeté raisonnable de quelqu'un qui veut se donner une stature de femme d'État, tout en rappelant que son parti, depuis des années, met en garde contre le danger du droit d'asile ou de l'immigration incontrôlée. Donc elle joue plutôt tactiquement bien en ce moment sur ces deux tableaux.
Quelle crédibilité accorder au communiqué de soutien de la Turquie après ce triple assassinat à Nice, puisqu'on sait que le président Erdogan a fait de multiples déclarations pour condamner la France qui s'en prendrait aux musulmans avec ses caricatures contre Charlie Hebdo, contre Mahomet, au point d'ailleurs que le président du Conseil du culte musulman a dit « mais non, nous ne sommes pas maltraités en France, il a jugé bon de répondre à Erdogan », preuve que finalement Erdogan a réussi à faire quelque part l'unité en France.
Oui, c'est un peu le pyromane qui essaie d'éteindre un feu de forêt avec une pipette. Donc c'est bien facile effectivement d'exciter les foules comme il l'a fait et avec effectivement beaucoup de véhémence et on a vu ce qui s'est passé à Vienne hier soir et dans le même temps venir condamner un acte terroriste. Donc je pense que c'est voilà, la condamnation elle est, j'ai envie de dire, normale pour un chef d'État, mais il faut aussi considérer que effectivement il a quand même une responsabilité, non pas dans cet attentat, mais il a quand même une responsabilité dans ce qu'il incarne maintenant depuis quelques jours, depuis quelques semaines, à vouloir monter les uns contre les autres, dresser les uns contre les autres et à faire croire au monde musulman qu'en France, les musulmans sont opprimés et que les Français n'ont pas le droit de caricaturer qui que ce soit et que la liberté d'expression ne doit exister, mais pas pour tout le monde et pas pour toutes les choses.
De quelle façon l'Union européenne soutient-elle la France ? Christophe Barbier, on l'a dit, l'Union européenne, elle ne comprend pas toujours très bien, d'ailleurs, laïcité. Hein.
La présidente de la Commission européenne s'est dressée immédiatement contre les déclarations d'Erdogan. Beaucoup de pays ont réagi de manière très forte. Même l'Allemagne, qui a une grande communauté turque sur son territoire, quand Macron a été pris à titre personnel, l'Allemagne s'est opposée à cela. Après, on n'a pas les mêmes diplomaties, mais c'est plutôt une force pour l'Europe. Je trouve que ça soit bien que la France réagisse de manière forte et solennelle en convoquant son ambassadeur, en montrant ses muscles, hein, notamment en Méditerranée, quand il y a des bateaux de guerre qui circulent, et que l'Allemagne soit plus en discrétion dans la coulisse à faire de la diplomatie classique de dialogue. Ça peut être une manière de se répartir les tâches qui est très efficace.
Lundi, élus et représentants des cultes seront-ils aussi dans les écoles? Hélène Romano, ce serait bien pour donner du courage?
Ça serait important pour montrer une certaine unité. Maintenant, je pense qu'on en est loin dans certaines villes et dans certaines académies.
Le contexte sanitaire actuel et ses effets délétères ont-ils une influence sur ces tueurs?
Pour celui qui vient d'arriver, ça paraît difficile de le dire. Pour ceux qui sont en France et qui vivent les contextes de confinement et de la Covid, c'est possible. On sait que c'est un impact majeur sur la santé mentale de beaucoup de Français et de personnes confinées. Maintenant, heureusement que tous les gens confinés ne passent pas à l'acte.
Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Rediffusion ce soir à 22h30. Bien sûr, vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous.